au niveau de l'intensité au moment où on se parle. Mais soyons patients, on va passer à travers, on va tout arriver à la maison, les amis. And in the end, on nous signale des retards importants pour le traversier, le bateau de 17h30 qui est toujours à quai. Fait que où que vous soyez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. On se reparle demain matin dans le Pit Stop. Bye.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Keep on rolling, baby! Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonella Carini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Mon député de ce soir, c'est le député conservateur Gabriel Hardy qui est avec nous pour 60 minutes. Il est député de Montmorency-Charlevoix dans le secteur de Québec. Il est membre du comité mixte spécial sur l'exercice des attributions en vertu de la loi visant à bâtir le Canada. Il est aussi membre du comité permanent de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et de l'éthique. Et il est aussi membre de l'Association parlementaire canadienne de l'OTAN. Et il est aussi membre du groupe interparlementaire Canada et aux États-Unis. C'est une grosse carte de visite que tu as, Gabriel. Merci d'être là avec nous ce soir.
Bien, merci de me recevoir. C'est tout le temps intéressant là, de parler politique et d'essayer de la rendre le plus intéressante possible.
Oui, il y a beaucoup d'incertitudes, entre autres la guerre qui fait rage dans le secteur de l'Iran. L'Iran qui envoie des missiles un peu partout sur d'autres pays. Les Américains et les Israéliens qui attaquent l'Iran. Par ton travail avec l'OTAN, est-ce que vous êtes constamment informé sur les nouvelles frappes, les stratégies utilisées par les Américains et les Israéliens? Avez-vous votre mot à dire là-dedans?
Bien, pas vraiment. Puis, tu sais, je suis membre du groupe parlementaire, mais je ne suis pas directement sur la table là, des discussions et négociations. Mais ce qui est très spécial, c'est d'apprendre en début de semaine passée, en fait, quand les libéraux, au début de la semaine, ont lancé un débat d'urgence sur la guerre en Iran. Et là, on le sait, le premier ministre avait changé 4 fois d'opinion en 4 jours. Là. Il avait annoncé qu'il supportait. Finalement, il ne supportait plus. Finalement, il aurait dû être consulté. Finalement, il dit que le régime devrait changer. Donc, ça est arrivé. Puis j'ai l'impression que pour un peu, peut-être faire un genre de passe par la bande, ils ont dit « on va déclencher un débat d'urgence, comme ça on va dire ce qu'on en pense, puis tout le monde va se positionner ». Mais ils ont oublié de dire qu'une base canadienne, en fait un camp canadien sur une base internationale, avait été frappé par des missiles iraniens au Koweït. Et là, ben, quand on découvre ça quelques jours plus tard, on se dit « oups, tu déclenches un débat, mais on ne le sait pas que les missiles frappent les Canadiens, les militaires canadiens au Koweït ». Bien, il me semble que ça aurait été intéressant de savoir qu'on a été la cible d'attaques de missiles iraniennes. Il me semble que ça nous dit qu'on n'est pas vraiment leurs amis là, au régime actuel.
Gabriel Hardy, est-ce que tout ça est intentionnel au niveau des communications, l'information qui vous était transmise ou c'est juste que, bon, cette base-là... Là, je t'amène dans les théories là, que j'ai lues sur les réseaux sociaux. C'était peut-être une base secrète canadienne. On ne voulait pas dire à personne qu'il y avait cette base-là à cet endroit-là. Puis on se sentait plus ou moins à l'aise de diffuser l'information. De votre côté, qu'est-ce que vous avez entendu à Ottawa?
Ben écoute, je veux dire, elle ne doit pas être si secrète que ça si les Iraniens ont réussi à la frapper avec des missiles. L'autre chose là-dedans, c'est que les autres pays, eux, ont divulgué l'information. Donc, tu sais, c'est une base conjointe. Donc, j'imagine que si le Canada fait partie d'une base conjointe puis que les autres pays révèlent à leur population qu'ils ont été frappés par des missiles iraniens, j'imagine que le Canada devrait le faire aussi. Est-ce que c'est volontaire? La réponse, c'est oui. Tu sais, c'est sûr et certain que le gouvernement a l'information. Puis, c'est eux qui décident de la partager ou pas, comme c'est eux qui décident de lancer un débat sur la guerre qui est en train de prendre place en Iran, puis de cacher l'information aux Canadiens comme quoi des missiles frappent nos militaires. Et ça, c'est une décision qui leur revient. Après ça, ils vont dire que c'était pour protéger la sécurité de nos forces armées. Mais de l'autre côté, comme je viens de dire, si les autres pays, eux autres, décident de le révéler, je ne sais pas ce qu'ils essaient de protéger autre qu'une position très, très spéciale de changer et de virevent, puis de ne pas amener ça finalement, parce que l'opinion publique, je crois, sachant que des missiles iraniens frappent nos forces armées, aurait dit « Wow, attendez une minute, là, ça c'est une attaque, là, c'est une attaque envers le Canada. » Et là, ça aurait peut-être changé l'opinion publique, chose qu'il ne voulait pas peut-être dire en plein débat.
Au niveau des communications, Gabriel Hardy, j'ai vu aller Mark Carney là, dans le dossier de cette guerre en Iran. Tu disais qu'il a changé à peu près 4 fois d'idée. J'ai l'impression, puis c'est probablement ce que moi j'aurais discuté avec M. Carney avant, c'est que c'est intentionnel ça, d'avoir un pied à gauche, un pied à droite, parce qu'on le sait, il y a un vent d'américanisme au Canada qui prend de plus en plus sa place. Et Mark Carney, en disant, ben, je ne suis pas nécessairement ami avec Trump, je ne suis pas nécessairement ami avec l'Iran, mais l'intervention, ça aurait dû être approuvé. Je ne suis pas trop sûr si tout ça, c'est légal. Mais si les Américains y vont, on va peut-être les aider. C'est ce que j'aurais conseillé, advenant le cas où j'aurais peut-être des élections partielles qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour être sûr, certain que business se continue tout simplement, puis que les gens ne sachent pas ma position exacte dans le dossier. Je les aurais toutes mêlées, là.
Bien, écoute, depuis le début, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça la stratégie du nouveau, et en grosse guillemets, le nouveau gouvernement libéral, parce qu'en réalité, il y a le premier ministre qui a changé, mais c'était toute la même gang.
Toute la même gang, oui.
Qui est là depuis longtemps, c'est de jouer sur tous les panneaux. Puis dans le fond, c'est une game d'opinion publique. C'est juste de dire à quel point on est pour tout. Puis tu sais, on l'a vu là, dans le dernier budget, on donne l'argent à peu près à tout le monde, on supporte tout, on est là pour les grands projets, on dit qu'on va bâtir des grands projets, mais on signe des lettres d'intention, puis il n'y a pas une pelletée dans le sol. Il n'y a pas de projet qui lève, mais on dit qu'on va y faire. On annonce qu'on va créer des maisons comme ça se peut pas avec Maisons Canada. Finalement, le directeur parlementaire du budget, une personne neutre, dit « Oups, vous annoncez 500 000 maisons, mais avec ce que vous présentez, c'est 5 000 que vous allez construire. » Tu sais, c'est un gouvernement qui est dans les annonces, dans le tape à l'œil, et finalement, qui n'a pas de résultat au bout d'un an. Il avait annoncé, puis on le sait, cette campagne sur le fait qu'il allait régler les tarifs avec Trump parce que c'est un fin négociateur pour finalement dire qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec en disant que Trump n'est pas contrôlable. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est oui, on le sait tout, mais la réalité, c'est que tu t'es présenté comme le fin négociateur et aujourd'hui, quand il n'y a pas de résultat, tu dis que dans le fond, ça ne te regarde pas. C'est un peu ça que je trouve qui est spécial. C'est beaucoup de campagnes de publicité, d'annonces devant des faux projets. Tout le temps de laisser paraître que les choses vont mieux aller un jour. Et ça, ben, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est une stratégie qui semble fonctionner parce que dans les derniers mois, la cote de popularité du premier ministre semble vouloir augmenter, mais sans être liée à aucun résultat. Et ça, je pense que le temps va le rattraper. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, les gens vont dire, et on l'a vu, il y a un récent sondage qui est sorti qui dit que 55 % des personnes sondées, bon, évidemment au Canada, nous disent que leur vie, c'est pas non seulement stabilisée, mais elle a dépéri dans la dernière année. Ils sont moins capables d'acheter, ils ont moins de pouvoir d'achat, ils ont moins de bonheur, ils ont moins de travail, ils ont moins de tout. Donc, plus de la moitié de la population dit que leur vie a détérioré depuis un an. Et ça, bien, éventuellement, ça va finir par rattraper la popularité. Et il va falloir que les annonces qui sont autant à gauche, à droite, dans le milieu, en arrière, en avant, bien, à un moment donné, rencontrent des résultats. Et c'est là que peut-être que cette poudre aux yeux-là va tomber, puis les gens vont réaliser que, OK, on ne peut pas dire on ferme, puis on rouvre, puis on avance, puis on recule, puis à un moment donné, jamais être imputable de ce qu'on dit. Et c'est ce bilan-là qui s'en vient. Après un an, je veux dire, l'inflation alimentaire a monté, le chômage chez nos jeunes a monté, la crise du logement, je veux dire, n'est pas mieux qu'elle était, la dette publique explose. Puis là, on est devant... À mon avis, tu sais, puis dans ma jeune expérience en tant que gars en politique, bien, on est devant le résultat de 10, bientôt 11 ans de politique libérale qui n'ont jamais prévu que le monde pourrait mal aller et que le Canada est mal positionné. On n'a pas développé nos ressources, on n'est pas prêt. Alors que le monde a besoin de ce qu'on a chez nous, on n'est pas capable de leur livrer parce qu'on avait des politiques de gardons tout dans le sol puis faisons de l'idéologie. Et là, bien, malheureusement, la réalité frappe. Puis elle frappe fort, puis c'est le peuple qui paye le prix.
Gabriel Hardy, je fais de la radio depuis 2006, donc ça va faire bientôt 20 ans en septembre et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'ex-agents du SCRS qui acceptaient de parler aux médias à la fin de leur carrière. Et dans les derniers agents que j'ai rencontrés, je te dirais entre 2010 et 2020, on me parlait de groupes terroristes, des familles de groupes de terroristes qui s'installaient tranquillement mais sûrement au Canada. Et pendant ce temps-là, ben, les pères qui faisaient partie de ces groupes terroristes-là, pouvaient aller faire du terrorisme ailleurs puis prendre des vacances ici au Canada avec leur famille. Pierre Paulus est sorti la semaine dernière en parlant de 700 membres du corps des gardiens de la Révolution islamique qui se la coulent encore douce au Canada. Je vais t'avouer que quand les agents du SCRS, les ex-agents du SCRS m'apprenaient ça, tu sais, j'étais vraiment flabbergasté. Mais là, de l'avoir d'en face, là, que les États-Unis sont en guerre contre l'Iran avec Israël, de savoir que ces gens-là sont chez nous, qui pourraient peut-être profiter d'une certaine manière pour commettre des gestes qui sont ignobles et s'attaquer à notre population. Je crains un peu ça. Et il y a aussi un chef de police de Téhéran qui aurait été vu en train de s'entraîner dans un centre de conditionnement physique de Richmond Hill. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que ces gens-là sont surveillés? Parce qu'on parle quand même de 700 personnes qui font partie d'un groupe terroriste qui se la coule douce au Canada, là?
Bien, c'est ça qui est spécial. Puis c'est un mix d'un peu tout, de nos politiques assez laxes, puis de notre idéologie que les gens peuvent changer puis être donc bien gentils chez nous. On accepte. On l'a vu là, la semaine passée, on a sorti 25 000 demandes d'asile ont été faites par électronique, sans aucune rencontre avec nos fonctionnaires, sans aucune rencontre personnelle, un à un, pour essayer de bien comprendre la situation. On a 300 000 demandeurs d'asile au pays qui ont un backlog, finalement, qui sont en retard, puis ces gens-là restent sur le territoire. Et là, vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Les gens qui sont de ces groupes-là souvent entrent au pays avec des visas visiteurs puis font des demandes d'asile tout de suite, sachant très bien qu'on va avoir un 2, un 3, un 4 ans avant que leur dossier soit analysé. Et pendant ce temps-là, ils vivent gratuitement ici avec tous les soins de santé plus que la population, tout ça aux frais des contribuables, une belle vie. Parce que le système est tellement rendu lourd qu'on a de la misère à être capable de scanner et rapidement et de renvoyer chez eux les gens qui n'ont pas d'affaires sur le territoire. Et quand ils font une demande d'asile, ben on dit ben ces gens-là ont des droits, ils ont le droit de faire analyser leur dossier. Puis c'est ce qu'on a vu dans ce cas-ci. Il y en a 239, puis là, les chiffres varient parce que, bon, il n'y a pas une grande transparence présentement là, du gouvernement. Mais d'une journée, on dit qu'il y en a 700. Dans le Parlement, j'étais là la semaine passée, ils me répondent, ben pas à moi, mais ils ont répondu à Pierre Paulus que finalement, non, c'était 239, puis qu'il y en avait juste un qui avait été renvoyé chez eux. Là, on parle d'une organisation terroriste. Là.
Donc, techniquement, okay? Il en reste les 238,
gens...
là?
Ben là, un calcul assez simple. Alors, 238. Donc, moi, je me suis levé dans le Parlement jeudi dernier pour dire, sont où les 238 autres? Puis, qu'est-ce que vous faites? Puis là, ben, on me répond dans le Parlement, ben, ils ne sont jamais rentrés au pays. Mais là, dans le fond, on a des comme tu dis, des gens qui sont vus au pays, puis on a des documents qui disent qu'ils sont rentrés au pays, puis on a même des personnes sur leurs réseaux sociaux qui disent qu'ils s'en viennent au pays avec leur billet canadien, puis ils montent ça sur les réseaux comme quoi ils rentrent chez nous. Alors là, on est dans le shop à la souris avec les libéraux qui ne veulent pas faire face aux résultats de leur laxisme puis de leur laisser-passer épouvantable. Puis nous, on pose des questions, puis on nous dit « Ah, oh, vous êtes juste conspirationniste. » Mais non, attends une minute, là. Comment ça, des gens qui sont reconnus, puis tu sais, je vais revenir à la motion que les conservateurs ont fait il y a un mois au Parlement, si tu es un demandeur d'asile et tu es reconnu comme étant un criminel, tu as fait des crimes dans ton pays ou tu es sur une organisation terroriste ou tu es relié à un groupe violent, un groupe terroriste, qu'est-ce qu'on fait à te garder chez nous aux frais des contribuables? Et là, on le sait, ce vote-là a été mis... Et les libéraux et le Bloc ont voté contre notre motion de renvoyer ce monde-là chez eux. Et là, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ben jour en fait, ça fait une semaine, on voit la guerre dans le monde, on voit ce qui se passe, puis là on se dit « ils devraient pas être chez nous ». Mais oui, mais c'est ça. Comment ça on est rendu dans un système qui garde des criminels violents, qui garde des gens reconnus de terrorisme, qui garde des gens qui sont reconnus être reliés à des groupes comme ça, rentrer sur notre pays puis avoir le droit de faire des demandes d'asile puis dire « ben rendu là, ils ont des droits ». Non, ils n'ont pas le droit d'être chez nous et surtout pas aux frais des contribuables. Alors, là, on est là-dedans. Là, tu sais, là, il y en a qui vont s'ostiner sur les chiffres et tout ça, mais nous, quand on voit 239 puis t'en renvoies un, on se demande comment ça, c'est long à analyser une équation aussi simple.
Ouais.
Terroriste égale sort de chez nous puis ça presse.
Il y a une certaine surveillance qui est exercée, là, ce que je comprends. Moi, j'ai eu affaire avec la GRC, avec la job que j'ai. À un moment donné, il y a suite aux attentats de la mosquée à Québec, il y avait un individu qui m'avait appelé. Je faisais une tribune libre le soir et il m'a appelé en disant que si jamais son pays rentrait en guerre avec le Canada, ça lui ferait plaisir de descendre quelques Québécois ou quelques Canadiens. À l'époque, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il m'avait dit. Et le lendemain, un agent de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, m'a appelé pour avoir l'extrait en question, pour être capable d'identifier l'individu. Pas que ce qu'il disait là, c'était un crime, mais si jamais il se passe quelque chose dans un quartier, ben ils vont regarder les gens qui sont dans ce quartier-là, ils vont dire un peu, là, peut-être que lui, on pourrait aller le rencontrer. Il a déjà fait des menaces à l'égard des Canadiens. Mais la Charte des droits et libertés, là, elle est géniale, mais elle est utilisée le plus souvent qu'autrement contre nous autres. On est un peuple qui est accueillant. On veut faire venir les gens chez nous parce qu'on veut qu'ils s'immiscent dans notre belle société. Puis malheureusement, ben, y a des pommes pourrites qui apprennent cette Charte des droits et libertés-là par cœur, puis ils l'utilisent contre nous autres, puis ils rentrent en sol canadien. J'ose espérer que le SCRS ou encore la GRC, comme c'est arrivé, moi, au Québec, sont en contact direct avec ces individus-là puis sont capables de les surveiller au day-to-day. Là. J'ose espérer qu'il y a une surveillance qui est faite.
Bien, tu sais, puis t'amènes à un point qui va, je crois, bien au-delà de juste le terrorisme, qui est sur notre capacité d'accueil. Tu sais, le système de demande d'asile est surutilisé présentement, puis il est connu, comme tu dis, dans le monde entier, où est-ce que les gens vont se dire, écoute, là, attends une minute, si tu rentres au Québec ou au Canada avec un visa de visiteur et tu fais une demande d'asile, tu rentres dans un système de bienveillance et d'inclusion. Hein. Tout le monde veut être gentil, puis on comprend que vous avez peut-être un problème dans votre pays, puis que vous essayez de fuir des choses qui sont difficiles et tout ça. Et c'est là-dessus que j'ai l'impression qu'on joue souvent pour se sentir mal, finalement, que ça aille mal dans le monde, mais qu'on met de plus en plus de pression sur les contribuables canadiens et québécois, et qu'en bout de ligne, on ne respecte pas notre capacité à payer tout ça. Et quand tu vois le système que là, tu décris comme étant utilisé par des gens qui ont de très mauvaises intentions, terroristes et tout ça, il est aussi utilisé par des gens qui veulent juste avoir accès gratuitement à un système de santé, aux frais des contribuables. Et ça, je me suis levé dans le Parlement pour en parler. Effectivement, il y a des gens qui doivent quitter leur pays parce que leur vie est en danger. Puis ça, c'est correct, là, tu sais. On doit être capable d'accueillir, puis on doit être capable d'aider notre prochain, parce que, comme tu l'as dit, on est un pays accueillant, on est un pays qui est respectueux, puis on est un pays, tu sais, qui est... On est du bon monde, finalement. Mais quand la bonté devient, puis la gentillesse devient un signe de faiblesse, puis que les gens utilisent notre système, là, ça devient pas respectueux envers les contribuables. Puis à un moment donné, il faut que tu choisisses, tu sais, oui, je veux respecter le monde, puis oui, je veux te respecter dans ton pays, que tu as de la misère, que tu devrais être chez nous, mais on a beaucoup de Canadiens présentement qui n'arrivent pas. Beaucoup de Canadiens qui ont de la misère. Ils ont de la misère à payer leur épicerie. Les banques alimentaires n'ont jamais été aussi grandes que ça. L'accès au logement n'a jamais été aussi problématique que ça. Les emplois. Alors, quand tu vois ça arriver, tu dis, ben, est-ce qu'on devrait aussi penser à nos Canadiens qui sont des contribuables, tu sais, qui contribuent à notre système, puis voir comment on peut respecter ces gens-là? Et le système présentement qui est en place est brisé. Quand on voit, comme je disais tantôt, un retard de 300 000 personnes qui ne sont pas encore traitées, mais qui ont accès à tout gratuitement, quand on voit qu'au Québec, c'est 200 000 demandeurs d'asile qui sont sur le sol québécois, c'est une énorme pression sur notre système de santé, notre système d'éducation, sur nos garderies, surtout finalement sur les logements. Et ça, c'est nous qui le payons en tant que contribuables. Et ça, c'est une discussion qu'on doit avoir qui n'est pas contre l'immigrant, qui n'est pas contre le demandeur d'asile, qui est sur cette capacité d'accueil-là. Alors, tu l'as décrit, il y a des gens qui l'utilisent avec une mauvaise vision de la chose. Ils veulent venir ici pour ramener leurs problèmes dans notre pays, chose qui est un problème à la base. Il y en a d'autres qui voient une belle opportunité de ne pas se faire opérer dans leur pays puis de rentrer sur le demandeur d'asile puis venir se faire opérer chez nous. Aux frais du Canada et des Québécois.
Mais
ça aussi, c'est un problème.
C'est peut-être une question personnelle, Gabriel Hardy, mais est-ce qu'on est trop tolérant envers les gens qui ont des discours haineux, mais comme ça touche la religion, quand on dit « vous devez tous anéantir les Juifs », exemple, ça s'est dit dans les rues de Montréal par un preacher. Ouais.
Sharkawi. Sharkawi, oui.
Adil Sharkawi, effectivement. Tu sais, lui, parce que c'est un discours religieux, c'était accepté. Je veux dire, on est peut-être trop ouvert. Tu sais, moi, à mes yeux, à moi, un discours comme ça, ça demeure un discours haineux, même si c'est religieux. Là.
Ben, tu sais, je pense que l'exemption religieuse qui est décrite dans ce cas-ci, n'y a rien dans la loi qui permet à une personne de dire que vous devriez aller tuer un autre puis de s'en sortir. Il n'y a rien. C'est une question, encore une fois, d'application puis d'interprétation. Puis moi, je pense qu'on doit pas chercher à interpréter le pourquoi du comment. Si tu dis en public que tu devrais aller tuer X, Y ou Z, là, on parle de juifs, ça peut être n'importe qui là, dans la société. Tu parles d'aller commettre des meurtres. C'est la prison automatique. Il n'y a pas de raison.
Mais dans le cas d'Adil Charkaoui, pourquoi on l'a toléré, lui?
Bien, parce qu'ils ont utilisé l'exemption religieuse, puis après ça, ils ont fait une polémique là-dessus. Mais l'histoire, c'est de dire non, cette personne-là, à partir du moment que tu sois religieux ou pas religieux, que tu sois un animateur radio, que tu sois un animateur télé ou une personne, comme tu l'as dit l'autre jour, qui appelle sur un show pour dire « Moi, s'il y a une guerre qui se déclare, je vais en amener une coupe avec moi ici », c'est de l'incitation à la violence, puis c'est de l'incitation à aller tuer quelqu'un. Dans le code criminel, c'est clair. Je veux dire, t'es supposé être en prison pour ça. Fait que tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis il faut juste reprendre la logique. Si une personne en société dit à d'autres mondes qu'ils doivent être tués, excuse-moi, mais t'es arrêté automatique. Il n'y a pas d'exemption de machin truc. T'es arrêté.
On vit dans le même monde.
On n'amène pas le débat. Ben oui, puis tu sais, on ne devrait pas amener le débat plus loin que ça.
Exact.
On doit libérer nos policiers, puis dire, gang, on est derrière vous. Si vous voyez ça devant vous, là, posez-vous pas de questions. C'est direct, puis t'arrêtes, puis c'est en prison. Il n'y a pas de « oui, mais là, peut-être que ce que je suis en train de voir, c'est une émotion, trans, machin, truc, peut-être qu'ils vont filer. » Non, il a demandé de tuer du monde, c'est out, c'est fini.
OK.
Et je pense qu'on doit revenir à cette logique-là.
Je veux t'entendre sur l'absence de Mark Carney lors de vos débats en chambre. Mm-hmm. Il est où, Mark Carney? Il fait quoi?
Il est partout dans le monde, sauf au Canada. C'est un citoyen de la planète. Puis, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être à l'étranger. Son nombre de voyages est assez impressionnant depuis le début de son mandat. Et son non-désir, finalement, d'être en chambre et de débattre sur ses projets, de sa manière de gouverner, est aussi assez impressionnante. Moi, je ne l'ai pas vu souvent dans le Parlement. Puis, en tant que nouveau, je suis tout le temps dans le Parlement. T'sais, moi, je ne rate pas de période de questions. La semaine dernière, quand il était supposé repartir en Norvège, puis là, il a été fortement critiqué de ne pas s'être présenté au débat que lui-même avait déclenché, le débat d'urgence sur l'Iran, il a reporté d'une semaine son voyage. Mais certainement que Mark Carney est constamment à l'international. Ce qui se passe quand tu vas à l'international, de ce que j'en apprends, de ce que j'en comprends, c'est que souvent, en sortant de là, tu vas dire ben, on a une intention de collaborer ensemble. Hein. On voit beaucoup d'annonces comme ça. C'est comme une lettre d'intention. Là. On se rend compte, on se dit qu'on est bon, qu'on est gentil, qu'on a le goût de travailler ensemble. Puis, on signe une lettre disant que nos pays voient vraiment un avenir prometteur à être un avec l'autre. Puis là, c'est officiel. Les pays disent au monde, oui, on veut travailler ensemble. Le problème avec tous ces voyages-là depuis un an, c'est que l'intention est peut-être louable, mais il n'y a aucun résultat. Il n'y a rien présentement. Il n'y a pas de deal qui a été signé. Il n'y a pas d'entente qui dit « OK, parfait, là, demain, là, il y a du commerce qui commence. Il y a ça qui se passe. » La plupart des pays qui visitent ont déjà des ententes de libre-échange avec le Canada. Donc, il y a beaucoup, encore une fois, ce que je reviens au début, de ce que je vois, beaucoup de façades, beaucoup d'annonces. Mais où sont les résultats? Où sont nos augmentations d'exportation? Où sont nos méga-projets? T'sais, on s'entend, là, on nous a reproché, les conservateurs, d'avoir supporté les libéraux dans C5. Puis là, ben, si on revient dans la logique de la chose, C5, on l'a supporté parce que le Canada fait face à une des plus grandes crises de son existence, notamment avec la relation avec les États-Unis qui commence à être très chamboulée, finalement, par Donald Trump. Et on a donné un pouvoir exceptionnel aux libéraux pour développer de manière rapide notre pays pour faire face à une crise sans précédent. Bien, un an plus tard, il n'y a rien qui se fait. Alors là, on va dire, bien là, vous avez supporté les libéraux dans les méga-projets. Bien oui, le Canada a besoin justement de méga-projets. On a besoin de sortir nos minéraux critiques que le monde recherche présentement. On a besoin de fournir le monde en gaz naturel puis en pétrole qu'on a comme ressources. Il faut qu'on fournisse le monde pour s'enrichir, puis après ça, être capable de transiter vers des énergies plus vertes ou autres. Mais on a des ressources que le monde cherche. Alors, on a donné les pleins pouvoirs au Parlement, au gouvernement libéral, puis il n'y a rien qui se fait en un an. Alors, c'est ça, tu sais, Mark Carney voyage pour faire des belles photos puis dire à quel point il y a des amis partout dans le monde, mais on n'a rien de concret qui se passe après un an.
On était quelques poussières d'avoir un gouvernement majoritaire libéral. Quel impact que ça peut avoir sur les conservateurs?
Bien, c'est sûr que si le gouvernement... si ça va être un gouvernement majoritaire, il va être très, très, très shallow, là, très limite, là, t'sais, par 2-3 sièges. De l'autre côté, bien, c'est sûr que de notre côté, ça stabilise le fait qu'on va être à l'opposition tant et aussi longtemps que le gouvernement n'a pas de problème de son côté à l'intérieur de son caucus. Certainement qu'on va continuer à regarder de manière très méticuleuse et très, moi j'appelle ça, puis c'est un terme militaire, le « red team ». Hein. Tu as tout le temps besoin de l'opposition pour être capable de tester ta stratégie et t'assurer que tu n'as pas d'angle mort, puis que tu ne te fais pas justement des mauvaises stratégies ou que tu ne commences pas à t'enrichir sur le dos de la population. Tu as tout le temps quelqu'un qui souffre dans le coup puis qui s'assure que tu prennes les bonnes décisions. Qu'est-ce qui va se passer avec un gouvernement majoritaire? Bien, ils vont avoir beaucoup moins de besoin de convaincre la Chambre des communes de s'entendre avec les autres partis. Ils vont pouvoir beaucoup plus faire à leur tête, ce qui, à mon avis, va coûter très cher aux Canadiens. Mais certainement qu'on va devoir nous redoubler d'efforts pour s'assurer que chaque décision est dans l'intérêt des Canadiens et que quand on dépense un dollar qui vient de la poche des contribuables, on le fait de la bonne manière. Alors, on va avoir énormément de travail à faire pour s'assurer que justement, ils n'essayent pas d'en passer des petites vites à la population à partir du moment où est-ce qu'ils sont hypothétiquement majoritaires. Là, présentement, ils sont dans une position où est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre le vote en chambre. Donc, ils doivent être un petit peu plus conciliants quand ils proposent quelque chose, en grosse théorie, parce qu'on le sait qu'à chaque fois qu'ils proposent de quoi, qu'on fait notre job d'opposition, ils disent qu'on est en train d'obstruer le Parlement. Ils n'aiment pas ça, finalement, pas faire ce qu'ils veulent. Mais là, à partir du moment où ils deviennent majoritaires, ils n'ont plus besoin d'essayer de convaincre l'opposition. Alors, nous, on a besoin d'être encore plus « sharp » sur chacune des choses pour les tenir imputables de leurs décisions. Ça va être un cran de plus sur le focus.
T'aimes le football, Gabriel, fait que tu vas savoir de quoi je parle, mais est-ce que c'est frustrant pour le Parti conservateur de voir que Mark Carney prend quelques éléments dans le cahier de jeu de Pierre Poilievre pour les intégrer dans son programme?
On n'a pas le monopole des bonnes idées. Hein? Faut croire qu'il aime ça piger puis venir voir ce qu'on fait. Puis le seul problème que moi je vois depuis le début, c'est que souvent ils viennent piger des bonnes idées conservatrices, mais ils sont pas capables de les appliquer parce qu'ils n'ont pas réfléchi assez longtemps. Fait que tu sais, ils vont faire. Tu sais, je te donne l'exemple là, avec Maison Canada. Ils disent qu'ils vont couper la taxe sur l'achat d'une première maison pour un couple, exemple, ou pour une personne. Le but, ce n'est pas d'aider les gens qui sont à leur première maison. On veut plus de maisons neuves. Donc, nous, on dit, ben non, tu devrais enlever la taxe fédérale sur toute maison neuve pour promouvoir l'achat de maisons neuves, la construction de maisons neuves. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, tu stimules la construction de maisons neuves, pas que tu aides seulement les personnes qui sont dans un premier achat dans leur vie. Ça, c'est un couple qui s'achète un condo, c'est leur premier logement. Bien là, lui, bon, too bad pour toi, mon ami. Là, quand tu vas t'acheter une maison, ça ne sera pas ta première. Fait que là, c'est fini. Alors pourquoi? Je veux dire, tu achètes un condo dans ta vie parce que, bon, tu commences ta carrière, tu es en couple et tout ça. Mais là, quand tu décides d'avoir des enfants, ton statut change un peu, tu vas agrandir ta famille, tu as besoin de plus grand. Tant et si longtemps que c'est une maison neuve, ce qui est ça le target, c'est ça qu'on a en tête. Pourquoi on ne donne pas un break à ça? Ça représente, nous, on propose pour toutes les maisons en bas d'1,3 million, qu'on enlève la taxe fédérale. C'est jusqu'à 65 000 d'économie. Il me semble que ça donne un bon break, ça, à nos jeunes qui veulent se partir dans la vie. Puis c'est pas des maisons de grand, grand luxe. Là. Dans plusieurs marchés, maintenant, une maison d'entre 800 puis 1 million, c'est comme la maison normale, surtout dans la région de Québec, là, on l'a vu. Là.
Québec-Montréal, c'est ça. Et, en fait, ce que tu mentionnes, puis je pense que c'est important de le souligner, là, c'est que c'est une moyenne au Canada, parce qu'une maison d'1,3 million... À Saint-Robert-Bellarmin en Beauce, c'est le château Frontenac qu'on bâtit à Saint-Robert-Bellarmin.
Oui, c'est ça.
Mais à Vancouver, t'as rien, là, 1,3 million. Là.
Non, puis tu sais, où est-ce que les familles vont aller s'établir aussi? T'sais, quand tu regardes, moi je regarde dans ma région, Montmorency-Charlevoix, les maisons sont passées d'une moyenne de 249 000 il y a 10 ans, puis aujourd'hui on est passé le 500 000 de moyenne. Alors, tu sais, tu te dis, bon, ça a doublé en 10 ans le prix d'une maison. Donc, 1,3 million, nous, on dit en bas d'1,3 million, ce qu'ils appellent le marché accessible, là, où il y a un terme là, pour ce marché-là. C'est pas une maison de luxe, c'est une maison dans le marché moyen qu'ils appellent. Donc, moins de 1,3 million. Tu coupes la taxe fédérale. À chaque fois que c'est une nouvelle maison en bas d'1,3 million, tu coupes la taxe fédérale. Puis ça permet aux gens qui se lancent dans la vie puis qui achètent une nouvelle construction d'avoir accès plus rapidement et en faisant des économies. Puis en même temps, tu boostes la construction de maisons neuves. Donc, c'est ça l'objectif, c'est qu'on ait plus de maisons neuves, pas qu'on ait plus d'acheteurs d'une première maison. Donc, c'est encore une fois, ils prennent une idée, ils la font pas super bien parce qu'ils comprennent pas elle vient de où, puis ils font une grosse annonce avec un gros genre « wow ». Puis là, ben ils ont l'impression qu'ils ont bien fait. mais ils construisent pas grand-chose de neuf, puis ils font des annonces devant des projets inexistants qui font venir des constructeurs pour « faire moi une maison modulaire là, pour une journée, puis défais-la après pour qu'on s'en aille », parce qu'il n'y en a pas de projet dans cette région-là, mais il fallait faire une annonce. C'est ce qu'on a vu pour Maison Canada, des annonces devant des faux projets.
Pierre Poilievre, comment il va ces temps-ci?
Il va très bien. Il est en tournée un petit peu partout. Comme vous avez pu voir, là, il est allé en Europe, puis là, il est aux États-Unis. Il rencontre, puis tu sais, on le sait, la politique, puis moi, c'est un aspect que je trouve très important. Évidemment, la politique, c'est des relations entre personnes élues. Hein, tu sais, on élit du monde, puis on leur demande de travailler pour nous autres. Mais la politique reste toujours aussi une question d'opinion publique. Et je trouve que c'est important ce que Pierre Poilievre fait présentement, parce qu'il amène les idées conservatrices ailleurs. Il va les présenter. Puis pour que les gens soient capables de se dire « Ah, OK, ils ont ça aussi comme opinion au Canada, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe. Ah, ça aussi, c'est une vision peut-être intéressante avec laquelle on aimerait faire du commerce. » Et là, des fois, dans certains pays, là, il y a un contraste entre 10, bientôt 11 ans de libéraux que certains pays pourraient dire « Ouais, on ne tripe pas pantoute parce qu'il me semble que leur axe est un peu bizarre. » Versus « Oh, il y a aussi cette gang-là au Canada » qui sont présentes, puis qui ils lèvent la main pour dire « bien, ça serait des axes intéressants ». On l'a vu avec Kanzuk, la proposition Canada, Nouvelle-Zélande, puis Angleterre, que Pierre Poilievre a amené, je crois, c'est il y a deux semaines, pour proposer un genre de plus qu'un libre-échange, mais un libre-travail aussi. Tu sais, t'es médecin en Angleterre ou en Nouvelle-Zélande, en Australie, pourquoi tu ne peux pas venir travailler au Canada puis que tes diplômes soient reconnus? Je veux dire, on a des normes de vie très similaires. On a une société qui s'arrime de manière assez efficace aussi. Pourquoi on ne permettrait pas à nos travailleurs, à nos docteurs, nos médecins, nos gens de la construction, nos mécaniciens, pourquoi on ne serait pas capable d'avoir un libre travail? Si tu cherches un emploi en Nouvelle-Zélande, tu ne le trouves pas. On en cherche au Canada, puis on va te reconnaître tes certifications. Donc ça, c'est des idées que je trouve qui sont très, très intelligentes. Puis ça permet aussi à l'opinion publique de se dire « wow, c'est intéressant ». Puis l'opinion publique drive la politique. Ce qu'un politicien veut, c'est que le peuple l'aime puis aime ses idées. Fait que ça fait avancer les idées de parler au peuple. Puis je pense que c'est une bonne chose que Pierre Poilievre fait présentement.
Bon, ben c'est ça. On a Mark Carney qui se promène un peu partout. On a Pierre Poilievre qui est maintenant, je ne sais pas s'il est encore aux États-Unis, mais il est encore là. Qu'est-ce que ça rapporte, ça, qu'un chef de l'opposition officielle canadien puisse aller faire un tour ailleurs dans le monde? Quel est l'impact pour les Canadiens? En quoi, nous, en tant que contribuables, on peut être remboursés par rapport à ces voyages-là d'un chef de l'opposition officielle qui va aux États-Unis?
Bien, il y a plusieurs choses. C'est comme je te disais, je crois que de démontrer que tu n'es pas juste une personne qui est contre quelque chose, parce que ça l'a souvent été dit, tu sais, bon, les conservateurs, vous êtes toujours contre, hein? Vous êtes l'opposition, vous vous opposez. Non, on est capable, puis on le fait, puis je pense que Pierre Poilievre le fait bien présentement. Il sort, puis il s'en va donner des conférences, puis il parle de la vision conservatrice d'un Canada gouverné par les conservateurs. Ça serait quoi les idées? Ça serait quoi les propositions? Ça serait quoi qu'on amènerait pour faire changer notre économie internationale, nos relations? Donc ça, c'est important de le partager. Ça permet aussi, je crois, aux gens de constater que Pierre Poilievre n'est pas seulement une personne qui, en chambre, va aller planter le gouvernement. C'est une personne capable de se déplacer à l'international, d'aller rencontrer des chefs d'État, d'avoir des bonnes relations, puis de leur parler de la vision canadienne, notamment au niveau de commerce international, libre-échange. Tu sais, présentement, il est aux États-Unis. Il s'en va faire la promotion de nos entreprises. Il s'en va faire la promotion auprès d'entreprises américaines du fait que le Canada est encore un très bon allié. Tu sais, c'est quand je dis là, que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple informé, c'est ça qui est important. Si tu vas rencontrer des chefs des grosses entreprises américaines, ces gens-là, leur opinion compte. S'ils se disent « Ouais, là, attendez une minute, là, le Canada, présentement, là, c'est ça que c'est cette manière-là. Regardez, les conservateurs ont ces idées-là et tout ça. Nous, on veut faire affaire, on veut embarquer dans cette aventure-là avec le Canada. » Ça peut faire changer les décisions politiques puis la perception. De savoir que les gens sont informés, qu'un grand nombre de personnes ont une opinion, peut faire changer la politique parce que les gouvernements, quand ils savent que le peuple veut quelque chose, la plupart du temps, ils essaient de s'aligner avec ce besoin-là ou cette vision-là populaire. Donc, c'est une mission importante d'aller partager la vision conservatrice d'un Canada versus les relations internationales de la part d'un chef de l'opposition. Est-ce qu'il doit faire ça à chaque semaine comme Mark Carney, c'est-à-dire jamais être en chambre puis tout le temps être à l'extérieur? Non, son rôle, c'est de représenter les Canadiens dans le Parlement. Mais je crois que Pierre Poilievre, présentement, est en train de sortir le conservatisme canadien pour que les gens le comprennent, puis que ça rende fier aussi les gens du Canada de se dire « Oui, moi, j'ai le goût d'embarquer dans cette vision-là d'un futur Canada sous le régime, ou pas régime, mais sous l'égide conservatrice. »
Parle-nous du dossier Brookfield.
Oui, écoute, ça fait un an, moi, je suis le comité d'éthique, puis je suis quand même assez impressionné de voir à quel point on accepte beaucoup de choses présentement que je trouve qui n'ont aucun sens. Puis, avec mon équipe, on a créé un document de 16 pages que j'ai mis en ligne. C'est gratuit, puis c'est là. Les gens, encore une fois, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple informé. Puis, je pense que plus les gens le savent, plus les gens sont au courant, plus ils peuvent se faire une opinion, leur opinion sur le sujet. Alors, depuis un an, on découvre que finalement, Brookfield est à peu près, qu'on sait, là, était la compagnie pour laquelle le premier ministre actuel, Mark Carney, était à la tête il y a un peu plus d'un an. C'est un fonds d'investissement international qui a des ramifications un peu partout, des gros, gros projets et tout ça. Puis quand tu regardes les annonces gouvernementales libérales de la dernière année, on dirait qu'ils sont puisés directement dans le carnet de Brookfield. Parce que quand tu regardes ce dans quoi Brookfield investit puis tous les méga projets, t'es comme « Oups, annonce canadienne, annonce des fonds canadiens qui vont investir là-dedans, annonce du gouvernement canadien qui s'en va bâtir tel projet. » Et là, tu regardes la liste de ceux qui peuvent bâtir ce projet-là. Je te donne un exemple. En Alberta, ils ont dit « On va faire un projet de capture de carbone. » Bien, le méga projet de capture de carbone, il n'y a pas bien d'entreprises au Canada qui peuvent faire ce projet-là autre que « ta-ta-ta-ta, Brookfield ». Alors, on parle de nucléaire, Brookfield est impliqué. On parle de les méga lignes de transmission, Brookfield est impliqué. On parle même de pipeline, Brookfield est impliqué. Là, il s'en va en Inde. Brookfield a fait une annonce, une méga annonce d'investissement majeur en Inde. Il s'en va en Norvège. Il est en Norvège présentement, le premier ministre. Bien, il y a deux semaines, Brookfield sortait une méga annonce d'investissement majeur en Norvège. Et là, tu regardes semaine après semaine après semaine, les annonces de Brookfield coïncident toujours à quelques jours avant ou après la visite du premier ministre dans un pays. Et là, ben, tu te dis, là, les coïncidences, correct, peut-être ça peut arriver une fois, deux fois, mais tabarnouche, quand ça fait un an qu'à toutes les semaines, le premier ministre, il est quelque part que Brookfield est passé, puis fait des annonces dans les mêmes domaines d'expertise, puis dans les mêmes domaines de champ d'intérêt, bien là, tu commences à te poser des questions. Puis le document que j'ai fait, c'est les projets qu'on a étudiés, qu'on a soulevés, au comité d'éthique, que ce soit avec le commissaire à l'éthique, la commissaire au lobbying, puis qu'on dit, est-ce que c'est normal qu'on soit au Canada dans cette position-là où est-ce qu'on a un premier ministre qui prend les fonds publics pour prendre le risque, mais que le retour sur investissement, c'est le privé qui va le faire, et devinez quoi, c'est la compagnie à laquelle il y a un lien encore financier que si elle performe bien, il va devenir plus riche.
Il est toujours actionnaire.
Et ça, c'est pas nous, les conservateurs. Ouais. Ben oui, il est actionnaire, puis ils l'ont mis dans un blind trust. Mais le gars de Brookfield, le dirigeant de Brookfield est venu au comité d'éthique, puis quand il a posé la question, il a dit « Si Brookfield fait de l'argent, le premier ministre s'enrichit. » Et là, tu regardes chaque décision du gouvernement canadien de la dernière année, est alignée parfaitement avec les intérêts de Brookfield. Et là, nous, ça, évidemment, on se pose des questions, parce qu'on se dit « Voyons, c'est pas normal qu'un premier ministre soit dans une position de potentiel conflit d'intérêts ou de perception de conflit d'intérêts comme ça. » Premièrement, tu ne devrais pas utiliser l'argent des contribuables, prendre des décisions, puis t'enrichir personnellement. Puis deuxièmement, et que je crois, à mon humble avis, est pire, c'est que la perception populaire présentement, la politique, les gens y croient de moins en moins, la démocratie est sous grosse pression. Et dans tous les moments de crise, on devrait surcorriger de l'autre bord. Présentement, les gens perdent confiance dans nos institutions, puis on a un premier ministre qui donne la perception qu'il s'avantage à toutes les semaines avec l'argent des contribuables pour faire plus d'argent quand il ne sera plus premier ministre. Ça, je trouve que c'est d'attaquer la démocratie même, la confiance de nos institutions de la part de ceux qui votent.
Ouais,
et ça,
je pense que c'est grave. On a dit quoi à l'éthique des dossiers que tu as fournis?
Ben, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, s'il y a le droit, il y a un point puis une virgule, nos ententes disent qu'il y a le droit. Puis là, on est comme, oui, mais je comprends.
Parce que
moi,
techniquement,
je l'ai dit souvent, là,
comme tu l'as dit, c'est un blind trust, là, mais techniquement, la personne qui s'occupe de Brookfield aujourd'hui n'est pas supposée d'avoir de communication avec Mark Carney.
Bien, en théorie, mais tu sais, le haut dirigeant de Brookfield est venu passer l'après-midi au Parlement avec le premier ministre dans son bureau. Puis l'écran éthique n'a pas été activé. Donc là, nous, on est en comité, on dit comment ça, l'écran éthique n'a pas été activé? Crime, c'était son ancien bras droit dans Brookfield. Là, il s'en vient passer une journée. Il y a des liens, mais on joue souvent sur oui, mais non, tout est correct parce que selon les lois, c'est correct. Puis moi, ça me rend fou. À chaque fois que je suis sur un comité et qu'on me répond ça, je suis comme ouais, mais attendez une minute, là. Il doit y avoir des mécanismes de contrepoids. On peut pas juste dire hey, le nombre de fois qu'on m'a répondu qu'on se fiait à la bonne foi des gens. Je suis comme, on peut, comme gang, sérieusement, arrêtez. On peut pas. Si ça, c'est votre mécanisme, je veux dire, enlever les polices de ces routes, là, tu sais, comme, quelque part, il doit avoir un mécanisme de contrôle qui fait en sorte qu'une personne, oui, a des bonnes valeurs et tout ça, mais a aussi un guide qui est assez strict de dire, hey, si tu passes, si ton pied sort à droite ou à gauche, les conséquences vont être graves. Tu sais, quand tu dis que tu vas t'avantager, exemple, en utilisant des informations ou autres pour t'enrichir, puis que je pense que le plus que tu peux avoir comme amende, c'est comme 200-300$. C'est comme, niaisez-vous, gang, là. T'sais, on peut-tu avoir une structure? C'est pour ça qu'un comité fait la révision des lois puis fait des propositions pour dire, wow, attendez une minute, les conservateurs ont dit, là, si tu prends l'argent des contribuables puis tu t'avantages personnellement, bien, tu devrais avoir une amende à la hauteur du montant que tu t'es avantagé. T'sais, je veux dire, le peuple n'a pas à payer pour toi qui utilises les virgules puis les points d'une loi pour t'avantager. C'est ce genre de propositions-là qu'on amène, qui sont évidemment rabattues du revers de la main par les libéraux. Mais c'est ça, représenter les gens. Puis, tu sais, souvent, moi, je vois passer dans mes interventions, moi, je publie tout ce que je fais pour que les gens se fassent leur opinion, là, que ce soit en chambre, que ce soit en comité. Je vois souvent dans les commentaires « faites quelque chose ». Puis, c'est ça que je suis en train de faire quelque chose. Je soulève les problèmes. Je soulève les interrogations pour que les gens se posent une question, puis que la prochaine fois qu'ils vont être dans l'urne à voter, bien, qu'ils prennent la décision qui représente le mieux leurs intérêts, puis qu'ils ne se fient pas à un débat parce qu'il y avait une belle cravate puis il y avait de l'air gentil. En intéressant la population à la politique, en la rendant un petit peu plus attrayante, qui, à mon avis, est une responsabilité de député, ça aussi, là, l'élu doit rendre la politique intéressante, bien, ça renseigne les gens puis ça leur permet de prendre la meilleure décision possible la prochaine fois. Le pouvoir, c'est les gens qui l'ont.
Je vais te demander de faire un record mondial. En 30 secondes, Gabriel Hardy, tu es un politicien tout neuf. Ça fait pas si longtemps que ça. Tu as été élu sous la bannière conservatrice dans la circonscription de Montmorency-Charlevoix. Je pense et j'ai l'intime conviction que tu t'es lancé en politique pour les bonnes raisons. Est-ce que tu t'attendais, toi, à ce que ce soit comme ça exactement ce que tu vis? Puis les éléments positifs de ce que tu vis actuellement à Ottawa, puis les éléments peut-être un peu plus négatifs que tu as appris à connaître avec le temps en étant député?
Ta première question, est-ce que je m'attendais à ça? Moi, je viens du domaine du privé, bâtir une PME, c'est 7 jours sur 7. Alors, il n'y a rien qui m'impressionne dans le niveau de travail qu'on a à faire. Je suis habitué de travailler très fort, puis je suis très content de le faire. Hein. Je me sens privilégié, puis je suis vraiment très, très fier de faire ce que je fais, puis je suis très content, puis je prends chaque jour, c'est un privilège, puis je remercie les gens d'avoir voté pour moi, puis de me permettre d'être là, puis tant et aussi longtemps qu'ils vont aimer mon travail, j'imagine qu'ils vont vouloir me garder là. C'est aux gens de décider. Donc non, ça ne m'étonne pas. Je n'ai aucun problème à travailler comme ça. C'est 14 heures par jour, puis ça me fait plaisir. Les choses que j'aime beaucoup, c'est apprendre. J'apprends tellement, tu sais, de toutes sortes, hein, de politique internationale, de lois fédérales, de structures, de comités. Tu vois la machine, comment les lois sont votées, comment on avance ça. Ça, je suis vraiment, c'est stimulant. Le côté peut-être un peu plus décevant, je te dirais que c'est la période de questions, parce que j'ai l'impression que il n'y a plus de débat. J'ai l'impression que il n'y a plus de discussion. Tu sais, je vais lancer mes points, le gouvernement a ses lignes à dire, puis là, c'est vraiment comme des clips. C'est correct, parce que quelque part, on donne notre opinion, puis après ça, c'est aux gens de voir la réponse qui a été donnée et tout ça, mais je sens pas dans la Chambre des communes qu'on a des discussions puis qu'on va débattre de points. Je pense que c'est des prises de position. Et la deuxième chose qui peut-être me... Puis là, c'est un 30 secondes vraiment long, mais ce qui me déçoit un peu, puis je suis le premier qui, tu sais, qui était pas super renseigné sur la politique, puis c'est pour ça que je me donne comme mission de la rendre intéressante. Ce qui me déçoit, c'est le désintéressement de la population envers la politique, notamment parce qu'ils ont l'impression que les politiciens s'avantagent avant d'aider la population. Et ça, je me lance vraiment comme mission d'essayer de rendre ça attrayant, de démocratiser la politique. Hein, c'est bizarre, on vit dans une démocratie, mais de démocratiser la politique pour que les gens s'y intéressent juste un peu plus, puis qu'il soit capable de pas juste voter sur des cravates, puis sur des sourires, puis sur des annonces vides, mais qu'il soit bien renseigné pour se dire, OK, c'est pas des slogans sur quoi je vais voter, mais je vais voter sur un travail qui a été fait dans les 1, 2, 3, 4 ans, dépendamment de la durée du Parlement, puis c'est sur ça que je vais voter. Le résultat de ce qui a été fait, puis mon espoir dans un avenir meilleur.
Gabriel Hardy est avec nous ce soir. Il est député conservateur pour la circonscription de Montmorency-Charlevoix.
Marceau, le soir. Gravel, dans le retour.
Elle a été journaliste pendant 13 ans au Soleil et en 2006, elle a été affectée à la couverture du 400e. Julie Lemieux est avec nous autres. Allô, Julie? Le journal Le Soleil t'avait mandaté à temps plein sur la couverture du 400e 2 ans avant le début.
Moi, il avait jugé à l'époque, puis c'était une bonne idée. Sur le coup, ça avait fait jaser un peu, mais il jugeait avec 155 millions d'investissements en infrastructures et en événements là, que ça valait la peine qu'on se penche là-dessus.
Mais il y avait des gens qui étaient de plus en plus inquiets à l'approche du 400e. Non seulement qu'on n'allait pas dans la bonne direction, mais je me souviens d'avoir lu, je pense qu'on s'en va dans le mur.
Oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés, inquiets, déçus de comment ça se passait. Je pense que quand on est arrivé au 31 décembre, c'est là qu'on a vu qu'on s'en allait dans le mur si on continuait comme ça.
Gravel dans le retour. Tous les jours en semaine, 14h. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1. Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner vos billets pour aller voir Quiet Riot et Aldo Nova le 7 août prochain à l'Agora du Port de Québec. Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquettes.
Attention, Zoom Lunettes, c'est plus de 3000 montures à partir de 20$, mais aussi de grandes marques. Forfait verre et monture, simple vision 70$ et progressif 150$.
Zoom, zoom, lunettes!
La vente étiquette rouge est de retour. Profitez du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein essence. Et profitez d'une autonomie électrique améliorée de 50 %. Ajoutez à ça une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 8 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Jusqu'au 23 mars, profitez d'une promo gourmande au Tim Hortons du boulevard de la Faune, coin de la colline. Avec tout achat de 10 $ et plus avant taxe, recevez une boîte de 10 Timbits gratuitement. Valide du lundi au dimanche, de midi à 22h. Passez-nous voir dès maintenant au Tim Hortons du boulevard de la Faune.
Si vous cherchez une assurance pour votre syndicat de copropriété, sachez que Desjardins Assurances assure les entreprises depuis plusieurs décennies. Vous vous demandez ce que ça change? Ben, imaginez si Gilles était le président de votre syndicat de copropriété depuis aussi longtemps.
De mémoire, selon l'article 16, alinéa 3, paragraphe 2B du règlement.
Tu connais la convention par cœur?
Ben oui, pas toi?
Oui.
Voilà, Desjardins Assurances Entreprises, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission.
Le Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier revient en force pour sa 27e édition. 3 rodéos, mini-rodéos, derby d'attelage, tir de chevaux, spectacles musicaux gratuits et plusieurs nouveautés. Procurez-vous vos billets en ligne sur lepointdevente.com. Devenez super bénévole au rodéo-scjc.com.
Chez Boulevard Lexus, obtenez le RX 350 Premium 2026 en location 24 mois à 2,9% pour seulement $688 par mois avec acompte. Aussi, profitez d'une offre de $1,500 sur certains modèles. Boulevard Lexus.
Les dernières années ont été marquées par une augmentation du coût de la vie. Devant cette situation, le gouvernement du Québec a mis à votre disposition plusieurs mesures pour remettre de l'argent dans votre portefeuille, telles qu'un montant de $300 tous les 24 mois pour les lunettes ou les verres de contact des jeunes de moins de 18 ans, ou encore une aide financière accrue aux aînés. Découvrez toutes les mesures mises à votre disposition sur québec.ca/portefeuille-québécois. Un message du gouvernement du Québec.
Besoin d'une nouvelle paire de lunettes? Bonne nouvelle, chez Greschiska, vous en aurez deux. À l'achat d'une paire complète avec verre et monture, même des grandes marques, obtenez la deuxième en cadeau. Jusqu'au 2 mai, Chantal Gravel, opticienne. Détails et rendez-vous sur greche-scarf.com.
C'est dimanche tous les jours chez Yuzu Sushi. Le plateau 30 morceaux à $33 du 9 mars au 5 avril. Disponible tous les jours en restaurant pour les membres Yuzu. Yuzu, c'est toujours bon. Surtout avec un plateau de 30 morceaux à $33 tous les jours.
Voici le portrait. Tu veux t'acheter une voiture. T'en veux pas de neuve. Et tu veux faire ça simple. Ça l'est avec Kia Beauport. On a aussi de l'occasion. On fait partie du portrait. Rejoins la famille. Magazine au kiabeauport.com.
T'es dans la construction? Prends action dès maintenant pour obtenir ta licence RBQ. Le groupe GSC forme et accompagne les entrepreneurs partout au Québec. Formation intensive, flexible et adaptée à ton horaire. En classe, en ligne ou hybride, visite groupegsc.com.
Vis le temps des sucres comme un beauceron pendant la semaine de l'érable de Destination Beauce. Du 13 au 22 mars, profite des plats exclusifs 100% érable à petit prix dans l'un des 15 restaurants participants. Régale-toi pendant la semaine de l'érable. Infos et menus au destinationbeauce.com.
Bienvenue aux petits rigurgies, aux gros vomis, aux rougeurs bizarres, aux têtes qui piquent.
Oh non, pas encore!
Aux fesses qui grattent, au nez qui morve, qui coule, qui bouche. Bienvenue aux joies d'être parent. Bienvenue chez Uniprix. Pour obtenir des conseils ou une prescription, vos pharmaciens de famille affiliés à Uniprix sont là. Consultez-les. Les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie. Certaines conditions s'appliquent.
Le printemps arrive chez Lévy Ford. Pour un temps limité, à l'achat d'un véhicule neuf, recevez un plan d'entretien gratuit, incluant vos deux premiers changements d'huile et les permutations de pneus. Passez-nous voir dès aujourd'hui chez Lévy Ford, les forts de Lévy.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Vous désirez sécuriser votre piscine, embellir votre cour ou moderniser votre intérieur? Clôture Stratégique est la référence au Québec pour les clôtures de piscine, les clôtures haut de gamme et les rampes intérieures en verre. Le printemps s'installe. Planifiez votre projet dès maintenant. Clôture Stratégique avec un K.com.
Pouvez-vous lire les lettres au mur?
Je vois flou un peu. S C O O P.
Parfait, merci. Je vous remets votre prescription.
Apportez votre prescription chez Scoop Vision. Parce que chez Scoop Vision, voyez clair sans payer trop cher.
Que vous soyez une personne plus pragmatique, ambiguë ou même maltavenante, La Voix Maltée a une bière pour vous. Découvrez ou redécouvrez La Voix Maltée avec son ambiance festive et ses souvenirs de 5 à 7 mémorables. La Voix Maltée, brassée ici, savourée entre amis.
Pour un véhicule d'occasion certifié Subaru, inutile de chercher. Lévis Subaru est la référence à Lévis. Venez choisir le et profitez d'un taux d'intérêt à partir de 3,99%. Qualité, fiabilité et tranquillité d'esprit vous attendent chez Lévis Subaru.
Visitez lévissubaru.com.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Gabriel Hardy est avec nous ce soir. Il est député conservateur dans la circonscription de Montmorency-Charlevoix. Je profite du temps avec lui pour lui jaser de ce que j'ai vu passer en fin de semaine. Des images pas trop belles d'un père de famille qui s'en prend à des arbitres parce qu'il était mécontent d'une décision qu'un arbitre avait prise sur la glace. C'était un match de Junior D. Donc, on s'entend que c'était pas des futurs joueurs de la Ligue nationale qui étaient sur la glace. Malgré tout ça, je vais te dire, bien franchement, Gabriel, que moi, chez nous, ou encore au retour de la game de hockey de mes enfants, c'est toujours un discours éternel que les arbitres ne sont pas responsables de la défaite ou encore de la victoire. Ils ont le droit de faire des erreurs, comme le coach peut faire des erreurs, comme leur propre père peut faire des erreurs. Puis on a affaire des fois à des arbitres qui sont extrêmement compétents ou d'autres arbitres qui ont un petit peu plus de difficultés. Tu es dans le sport depuis des années et des années. Tu as entraîné des athlètes avec une shape pratiquement olympique, des stars de la Ligue nationale de hockey. Ouais. C'est-tu une problématique, les parents dans le sport?
Je pense que la problématique, c'est d'avoir créé du sport ultra compétitif qui a laissé de côté le facteur plaisir pour mettre le côté performance avant tout. Puis ça donne les résultats qu'on voit depuis les dernières années, c'est-à-dire de moins en moins de jeunes très performants au Canada et au Québec et de plus en plus de jeunes qui décrochent du sport par écœurant de titre aigu de, un, avoir trop fait et de, deux, avoir vécu trop de stress par rapport au sport. Quand on est sur les sélections hâtives, quand on est sur « faut être les meilleurs », que chaque match est la finale de la Coupe Stanley, ça crée ça, hein, ça crée cette relation-là qui est très malsaine avec le sport. Ça a un énorme impact chez le sport féminin. Les filles décrochent beaucoup plus vite que les gars. Mais même chez nos jeunes, tu sais, puis on parle de hockey présentement, là, c'est notre sport national. 70 % des jeunes hockeyeurs au Québec vont décrocher avant l'âge de 15 ans pour plusieurs raisons, dont le stress, dont le surentraînement, puis dont l'écœurantite. Et je pense que ça a un gros, gros impact. La manière comment les parents se comportent dans les estrades a un impact réel sur le feeling qui va être vécu par les jeunes sur la glace. T'sais, moi, mes professionnels, là, souvent, je leur demande l'été, les gars sont dans NHL, c'est quoi vos meilleurs souvenirs? Puis ils me parlent jamais du tournoi, genre que ça s'est battu. Ils me parlent jamais de... Ils me parlent du fun qu'ils ont eu. Ils me parlent de quand ils croisaient un gars sur la glace, mais qui s'entraînait avec l'été. Puis ils disaient, hey, buddy, comment ça va? Ils me parlent de sentiments positifs, d'adversité, de dépassement de soi. Ils me parlent jamais. Puis tu sais, je parle des gars Bolduc, Matt Olivier, Marchessault, Yannick Gourde. Jamais ces gars-là m'ont dit, « Hey Gab, sais-tu quoi, là, quand mon père était vraiment frustré dans les astrales puis qu'il criait après les arbitres, là, hey, que ça me mettait du jus, j'avais le goût, là, tu sais, pas en tout. » Au contraire, tu sais, moi, j'ai Frank qui était un des très, très gros joueurs en Europe, en Suisse, en Russie, notamment, puis qui me disait qu'à un certain moment donné, avec une maturité exceptionnelle pour un jeune, il a demandé à son père de ne plus venir à ses matchs. Il a dit, « Papa, ça va pas. » Il dit, « J'aimerais mieux que tu viennes plus, je veux plus que tu me coaches. » Puis je suis comme... Parce que le stress qu'il vivait était trop grand, puis il avait plus de plaisir à jouer. Puis dans une maturité d'un jeune, puis là, je sais pas si c'était à 15, 16 ans, 14 ans qu'il a dit ça à son père, mais il a demandé à son père d'arrêter parce qu'il allait vouloir arrêter de jouer au hockey parce qu'il y avait trop de pression de la part de son père. Puis son père voulait pas mal faire, tu sais, c'est cette culture-là de la performance à tout prix qui, je crois, est un problème. Et on voit le sport comme une finalité, alors qu'on devrait le voir comme un tremplin. Nos jeunes, là, quand ils font du sport, ils apprennent la résilience, ils apprennent le travail d'équipe, ils apprennent à avoir un objectif, ils apprennent à gagner, ils apprennent à perdre. Apprendre à perdre dans la vie, c'est vraiment important. Le monde, il veut juste focusser sur gagner, mais apprendre à perdre, là, c'est excessivement important parce que il y a quelqu'un qui a peut-être été meilleur que toi, puis il y a plein de choses dans l'équation, mais tu dois te relever de ça, tu dois apprendre de tes défaites, tu dois devenir meilleur. Tu dois voir aussi dans l'autre quelqu'un qui a fait sa job. Félicitations, buddy. Tu as travaillé fort aujourd'hui. Là. Tu m'as rien enlevé, tu as gagné quelque chose à toi, mais tu n'es pas venu rien me prendre à moi. Moi, j'ai donné le meilleur de moi-même, tu as donné le meilleur, puis ça prenait un gagnant. Le sport apprend aussi à respecter des règles. Et notamment, là, on parle d'arbitre, de respecter l'autorité. Quand les parents se mettent à crier après les arbitres, dans le fond, ils sont en train de dire à leurs jeunes, tu n'es pas obligé de respecter l'autorité, parce que si ton opinion est différente, tu peux bien l'envoyer chier si tu veux.
Donc ça
je pense que c'est un,
la prochaine victime,
un problème.
La prochaine victime, ce sera son enseignant ou son enseignante?
Ça sera la vie en général, ça sera la police, les gouvernements, ça sera son boss, ça sera tout. Tu sais, c'est un enseignement. Le sport, c'est une école de vie. Et moi, je milite beaucoup pour que les jeunes fassent plus de sport, que nos adultes fassent plus de sport. Hey, j'avais organisé, moi, avec... j'avais participé, excuse-moi, là, je me donne du crédit, là, c'est pas en tout ça, à un match de hockey de parents. On était les parents de l'équipe de jeunes, je pense qu'il y avait comme 10 ans. Puis on s'était dit, en fin de saison, on se fait un match de hockey entre nous autres. Hey, de voir la face bleu marin des parents qui sont pas capables de faire un aller-retour de la glace pour faire leur chiffre, là. Puis là, ils sont couchés sur le banc, là, puis ils ventilent. Puis là, je les regardais, puis j'étais comme, quand tu cries après ton jeune, là, « Vas-y! Patine! » Bien, quand tu fais ça, là, il vit ça, que t'es, mais comme, tu files-tu, là? Tu ressens-tu ce que tu y mets, là? Cet impact-là de vivre l'activité physique fait réaliser à quel point, des fois, vous demandez des affaires à vos enfants que vous seriez pas capable de faire dans 1000 ans. Donc, je pense que c'est important qu'on reconnecte puis qu'on soit capable de voir le sport comme un tremplin puis qu'on arrête de mettre de la pression parce que, comme tu l'as dit au début, les arbitres sont humains. Souvent même, c'est des jeunes aujourd'hui hein, qui commencent. Ils font des erreurs, comme nos jeunes, comme nos parents. Puis à la fin de la game, là, peut-être que c'est un tournoi super important puis que tu vas avoir une médaille qui a été faite je sais pas où dans le monde à 4,99. Mais, tu sais, comme relativise, mon ami, là, relativise.
Exact. J'espère que ton discours sera entendu. Qu'est-ce que ça fait un député conservateur quand c'est pas à Ottawa, dans sa circonscription? En quoi consacre-t-il ses journées?
Bien, je rencontre des organismes. Je vais rencontrer les maires, mairesse, préfets, les entreprises. Je fais le pont aussi entre les programmes fédéraux et les programmes qui sont accessibles à la population pour les aider à les comprendre, à même appliquer dessus. La politique fédérale, c'est pas au-dessus hein, du provincial ou du municipal. C'est tout des carrés de sable un à côté de l'autre. Fait qu'on a besoin de collaborer, de comprendre la réalité. Tu sais, moi, j'ai 29 villes puis un district, là, Saint-Thérèse-de-Lisieux, qui appartient à Québec. Mais j'ai 29 municipalités. Donc, c'est d'aller voir, OK, les maires ou les mairesses, vous êtes rendus où dans votre ville? Qu'est-ce qui se passe dans votre région? Avez-vous besoin d'aide du gouvernement fédéral? Avez-vous des problèmes à avoir des interactions? Puis des fois, j'enlève mon chapeau de député dans des discussions, puis je mets mon chapeau d'entrepreneur, puis je leur fais juste miroiter des « Avez-vous pensé à ça? Avez-vous peut-être attaqué ça de telle manière? Avez-vous parlé à telle personne? » Puis j'essaie juste de faire partie de l'équation qui fait avancer ma circonscription puis les villes avec lesquelles j'ai le privilège de travailler. C'est ça le travail d'un député, c'est d'être au service de la population, d'être au service des municipalités sur le terrain, puis de trouver tous les moyens possibles pour aider ta région à augmenter, que ce soit l'économie, le tourisme, l'entrepreneuriat, la culture. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puis c'est d'être une courroie de transmission ou une solution, finalement, à ces gens-là.
Merci beaucoup pour ce 60 minutes avec toi, Gabriel Hardy. C'est toujours un plaisir. Je souhaite de passer une belle semaine. Puis écoute, un gros merci d'avoir été avec nous ce soir. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur tes travaux en Chambre à Ottawa, on peut aller directement sur ta page sur noscommunes.ca, c'est bien ça?
Oui, sinon je mets tout en ligne sur mes réseaux sociaux, là. Puis j'ai aussi un site internet, gabrielhardy.ca, le fameux document que je parlais tantôt des 16 pages qui est évolutif, là, on va en rajouter, il est en ligne, c'est gratuit.